le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour, vous êtes sur France Culture et c'est maintenant le service protestant qui vous est présenté par Jean-Luc Gadreau. Troisième dimanche de l'Avent aujourd'hui et une réflexion spirituelle qui nous sera partagée par le pasteur Pascal Gonzalez. Vous en avez pris l'habitude, nous commencerons cette émission avec la chronique de Vincent Smetana, artiste et secrétaire général de la Société biblique francophone de Belgique. Il semblerait d'ailleurs que vous ayez envie de nous conduire quelque part ce matin, Vincent Smetana.
Mais oui, il faut tout de même bien qu'on aille quelque part, qu'on sente le désir de bouger, d'aller de ce qu'on connaît à ce qu'on ne connaît pas encore, par exemple.
Avant, pendant et après. Et puis quoi encore, Vincent Smetana?
La question brûlante, évidente et cruciale en cette saison. Oui, on en reconnaît le son, le sens et l'intention. Et d'ailleurs, sans délai, la voici. Alors, oui ou non, avez-vous déjà choisi une destination pour Noël? Quelle sera votre prochaine destination? Avez-vous déjà l'idée d'où aller après l'Avent? Et c'est ici que je vous entends déjà murmurer en vous-même. Mais oui, je vous entends. Vous vous dites certainement, mais comment ça, destination? Destination est un mot qui semble figé sur une idée de vacances, et c'est dommage, pour ne pas dire que c'est faux, car ce mot est une invitation à toutes les pages. Il est partout dans la sève et l'intention de cette bouleversante bonne nouvelle. « Je suis le chemin », dira-t-il. Jésus ne dit pas qu'il est l'image, l'objet, le Graal, la vraie pose, le héros ou l'absolu de toute chose. Non, il dit qu'il est lui-même et en soi l'invitation au mouvement, à la marche, à l'élan et au choix. Et si on plonge dans le ventre de ce mot, on trouve le vrai sens qui sous-tend tout ce que la Bible nous en donne. Destination, nom commun en français, dont la source en latin est destinatio. Et destination ne veut pas dire vacances, ce terme parle de détermination, de résolution, de choix. Quand Jésus dit qu'il est le chemin, il dit qu'il est lui-même ce qui est à choisir, qu'il est l'objet même de notre détermination, de notre résolution. Se destiner à le rencontrer, cette destination Jésus, n'est pas une promesse blanche et plate de doudoune à paillettes, de slalom géant et d'après-ski à poids. Mais non, cette destination-là n'est pas un voyage dont on revient, c'est un voyage où l'on devient. Ce n'est pas une vacance, c'est une finalité, un véritable objet, une raison d'être, c'est un but, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule, un appel, une vocation, une fin en soi, une véritable mission. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles qui donnent la vie éternelle, Jean 6. Alors, pardon, mais si c'est pas ça, une vraie destination géante, alors je sais pas ce que c'est. Destination aussi, là où Dieu dira à Abraham, ce fameux Lek-Leka, va vers toi, hors de ton territoire, hors de ta filiation, vers la terre que je te montrerai, dans le pays où je te verrai, Genèse 12, va vers toi-même, c'est-à-dire choisis-toi une vraie destination unique qui te révélera à toi-même. Nous savons ce que c'est, Noël? Ah vraiment, on sait? Eh bien, lâchons ça maintenant. Quittons notre mémoire nostalgique pour se choisir une destination vraie. Nous savons déjà, voilà ce dont il faut sortir. La culture acquise, les valeurs, les grilles de lecture, les habitudes et les rites, voilà d'où il faut partir. Quitte, sort, part, que l'hébreu exprime par une seule et même syllabe, c'est. Voilà la grande ultime et prodigieuse destination, quitter toute extériorité afin de réaliser l'intériorité. Le concept de destination de l'homme qui signifie en effet l'interrogation de l'humain sur son vaudzou, à quoi bon, et sur son vohin, vers quoi? Concept diffusé notamment par le théologien luthérien Johann Joachim Spalding, qui en 1748 publie la première édition d'un traité sur la destination de l'homme, sont dans le sens de l'existence. Sensibilité, esprit, foi, immortalité. Car oui de oui, elle est en nous tous cette question, elle bouge, elle cogne, elle vibre. Où aller? Où sont ces paroles qui épanouissent la vie pour toujours? Alors, disons ceci, se dire que nous ne sommes pas au milieu de nulle part. Parce que toi, tu nous as nommés et choisis en donnant à nos vies un sol nouveau-né et une destination. Là où nous allons, c'est là où tu sais que nous sommes capables d'aller. Destination, nom féminin, lieu vers lequel se diriger, finalité, raison d'exister, territoire vrai d'un épanouissement singulier. Cette attente de l'avant forme en soi une destination native, une aspiration des profondeurs de notre âme, un désir si dense à satisfaire que le fondement de notre existence soit autre, bouleversé, modifié, converti. Ce que nous attendons, c'est un récit splendide, une annonce incomparable, une paix qui coule en nous comme une vraie sève de vie. Le mot hébreu « shalom » exprime l'état dans lequel nous devrions en principe toujours nous trouver. Et comme le dit le théologien Grune, dans la naissance de Jésus, le désir de Dieu est de rétablir l'être humain dans la condition qui lui avait destinée, la paix de l'âme. Quand Dieu devient homme, l'homme accède au repos du cœur. Erénée signifie aussi harmonie, l'accord de toutes choses, le ciel, la terre, l'esprit, la matière. Puis Eudokia, qui désigne le geste d'amour de Dieu envers l'homme, sa splendide bienveillance. Eudokia, ce terme d'amplitude qui signifie que Dieu est en relation avec l'homme, qu'il désire ça. Et que par la naissance de son fils, il veut approfondir cette relation et faire de ce lien privilégié, amplifié, natif, une merveilleuse destination déroutante, inédite, absolue. Allez, à la semaine prochaine.
J'ai bien envie de vous dire bonne route, en gardant en tête, évidemment, que la destination n'est pas un voyage dont on revient, mais bel et bien un voyage où l'on devient. Merci Vincent Smetana et à dimanche pour ce quatrième dimanche de l'Avent. Et c'est maintenant au tour de Pascal Gonzalez. Très heureux de vous accueillir dans le service protestant. Vous êtes pasteur de l'Union nationale des églises protestantes réformées évangéliques de France à Toulouse. Et le titre de votre méditation vient bien en écho de la chronique précédente, « Un avant et un après ». Comment se préparer pendant l'Avent pour ne pas le regretter après ? Alors on vous écoute, Pascal Gonzalez. Bonjour et bienvenue.
Bonjour. Voilà, je voudrais commencer en vous racontant une petite histoire. Lorsque j'étais pasteur à Aix-en-Provence, il y a eu une dame d'origine vietnamienne qui me racontait son histoire étonnante. Et pour perfectionner son français, elle passait beaucoup de temps à éplucher le dictionnaire qu'elle avait chez elle. Et un jour, elle m'a dit qu'elle a lu attentivement ce qui était écrit à la lettre J pour Jésus. Je ne sais plus quel dictionnaire elle avait entre les mains, mais la définition qu'elle a lue ce jour-là a bouleversé sa vie. Ce dictionnaire expliquait que pour les chrétiens, Jésus était Dieu venu sur terre et que Dieu avait été un enfant, puis un homme. Il avait enseigné, il avait fait des miracles, puis il avait donné sa vie pour que ceux qui croient en lui soient pardonnés et sauvés. Et dans le dictionnaire, il y avait l'image d'un enfant dans une crèche. Et en refermant le dictionnaire ce jour-là, cette dame avait compris que si Dieu existait, il devait être exactement comme ça. Quelques années plus tard et après de nombreuses difficultés, cette dame qui avait reçu une éducation bouddhiste dans son pays d'origine est devenue chrétienne. Et à moi, elle m'a dit, quand j'ai lu cette définition et quand j'ai vu l'image de l'enfant, je me suis dit, c'est ce Dieu-là que j'attendais et c'est en ce Dieu-là que je veux croire. Et cette dame s'est donc convertie en lisant un dictionnaire. Voilà, nous allons bientôt fêter Noël, ou plutôt, j'ai envie de dire, nous allons essayer de fêter Noël. Nous espérons, vous comme moi, pouvoir nous réunir en famille. Nous espérons que nous ne serons pas confinés et que tout redeviendra presque comme avant. Nous espérons aussi, sûrement vous comme moi, que Noël nous apportera son lot de consolation, un peu de joie, un peu de paix. Et pourtant, nous le savons, Noël est une fête difficile pour ceux qui sont seuls. Noël est une fête douloureuse pour ceux qui n'ont plus rien à offrir à leurs enfants. Noël est même un drame pour toutes les familles déchirées ou endeuillées. Alors, comment se réjouir et faire la fête alors que le virus se propage, que les gens perdent leur travail et qu'au milieu de tout ça, des hommes assassinent pour défendre l'honneur de leur Dieu? Peut-on encore croire que Noël nous apportera cette année de la joie et de la consolation? Je viens de vous parler d'une dame que j'ai rencontrée à Aix-en-Provence il y a quelques années lorsque j'étais jeune pasteur. J'aimerais maintenant vous parler d'un homme qui a vécu il y a plus de 2000 ans et dont la vie a marqué l'histoire de l'humanité. L'histoire de cet homme pourrait nous aider à vivre Noël différemment. L'histoire de cet homme pourrait même nous aider à comprendre le véritable sens de Noël. Alors cet homme, ce n'est pas Jésus, c'est Jean, Jean le Baptiste. Jean est le cousin de Jésus et il est né 6 mois avant lui. Jean est le fils d'un sacrificateur et il aurait pu devenir lui-même un sacrificateur comme son père. Pourtant, dès le début, ses parents ont compris que la vie de Jean serait spéciale. Jean va en effet devenir un prophète, un porte-parole de Dieu, à une époque d'ailleurs où il n'y a plus du tout de prophète, à une époque où Dieu ne semble plus parler, à une époque où Dieu semble même avoir oublié son peuple. Aujourd'hui, vous avez peut-être l'impression que Dieu ne parle plus. Vous avez peut-être l'impression que Dieu nous a oubliés, qu'il nous a abandonnés à notre triste sort. Les gens qui vivaient à l'époque de Jean le Baptiste devaient penser exactement la même chose. Même si certains attendaient quand même un sauveur. Certains espéraient toujours que Dieu allait finir par envoyer celui qui rendrait au peuple de Dieu toute sa gloire. Le texte biblique que je vous invite à écouter maintenant se trouve dans l'évangile de Jean. C'est l'évangile d'un autre Jean que Jean le Baptiste. Là, c'est Jean, le disciple que Jésus aimait. Mais dans cet évangile, on raconte un moment étonnant et intéressant de la vie de Jean-Baptiste. Je vous invite à écouter ce passage. Jean commence à devenir célèbre, il s'est retiré dans le désert et il prêche. Il crie plus qu'il ne parle et il appelle les gens à se repentir. Il les appelle à changer de vie et de comportement. Il crie et il baptise. Les foules viennent à lui, mais les religieux se posent des questions à son sujet. Écoutons le texte.
Voici le témoignage rendu par Jean lorsque les autorités juives de Jérusalem envoyèrent des prêtres et des lévites pour l'interroger. « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, mais il affirma très clairement devant tous « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc ? Es-tu Élie ?»« Non, répondit Jean, je ne le suis pas. »« Es-tu le prophète ? » dirent-ils. « Non, répondit-il. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu donc ? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Jean répondit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez un chemin bien droit pour le Seigneur, comme l'a dit le prophète Ésaïe. » Ceux qui avaient été envoyés à Jean étaient des pharisiens. Ils l'interrogèrent encore, « Si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète, pourquoi donc baptises-tu ? » Jean leur répondit, « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. » Tout cela se passait à Béthanie, de l'autre côté de la rivière, le Jourdain, là où Jean baptisait. Le lendemain, Jean voit Jésus venir à lui, et il lui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit, « Un homme vient après moi. » Mais il est plus important que moi car il existait déjà avant moi. Moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau afin de le faire connaître au peuple d'Israël. » Jean déclara encore, « J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui, j'en suis témoin. Je ne le connaissais pas, mais Dieu, qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. » J'ai vu cela, dit Jean, et je suis donc témoin que c'est lui le Fils de Dieu.
Dans le texte que nous venons d'entendre, j'aimerais vous montrer en quoi le comportement de Jean le Baptiste est remarquable, et en quoi ce comportement remarquable pourrait nous aider à mieux vivre Noël cette année. Lorsque ceux qui ont été envoyés pour recueillir des informations sur Jean lui demandent qui il est, Jean le Baptiste commence par affirmer qu'il n'est pas le Christ. Il veut dire par là qu'il n'est pas le sauveur que les Israélites attendaient. Et moi, je trouve cela remarquable. Tout d'abord, il commence par se définir par ce qu'il n'est pas. On a l'impression qu'il veut s'amuser un peu avec ceux qui cherchent à mieux le connaître. Peut-être a-t-il compris d'ailleurs que ces gens-là ne cherchaient pas vraiment Dieu. Ils viennent à lui pour satisfaire leur curiosité. Ils viennent aussi parce que des chefs religieux les ont envoyés vers Jean pour en savoir plus. C'est intéressant de se définir en affirmant premièrement ce que nous ne sommes pas. Mais ce qui est surtout remarquable, c'est que Jean le Baptiste, qui est en train de devenir une célébrité dans la région, qui a très certainement fait le buzz, comme on dit aujourd'hui, ne se trompe pas sur sa célébrité. C'est difficile en effet d'imaginer ce qui peut se passer dans la tête d'un prophète comme Jean-Baptiste. Des centaines de personnes viennent l'entendre au désert, peut-être des milliers. Des centaines de personnes se repentent dans les larmes et dans la joie, peut-être même des milliers. Ces personnes se font baptiser et elles repartent transformées, plus légères, renouvelées. Si j'essaie de me mettre quelques instants dans la peau de Jean, et si j'essaie d'être honnête, je suppose que je pourrais être grisé par ce succès. Je pourrais même avoir l'impression que je suis le sauveur de ces foules. Mes paroles et mon attitude ont un impact incroyable sur la vie des gens. Les gens qui ne croyaient plus se remettent à croire. Ceux qui n'avaient plus d'espoir repartent encouragés. Est-ce que je ne suis pas tout de même un peu responsable de tout ça? Est-ce que je ne suis pas un peu le sauveur attendu? Il semblerait que Jean se soit bien préparé. Le succès ne va pas l'atteindre parce qu'il sait clairement qui il est. Il a certainement déjà bien réfléchi à tout ça. Peut-être au désert. N'est-ce pas le lieu idéal pour y voir clair? Jean sait qu'il n'est pas le sauveur. Il n'est même pas Élie, le prophète qui a été enlevé par Dieu avant de mourir et dont les Israélites attendaient le retour. Il affirme même ne pas être le prophète, le deuxième Moïse annoncé par les Écritures. Je ne suis pas le Christ, je ne suis pas Élie, je ne suis pas le prophète. C'est une belle leçon d'humilité que Jean nous donne. Surtout si l'on compare cette réponse avec tout ce que Jésus dira sur Jean le Baptiste. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11 et au verset 11.
« Je vous le déclare, dit Jésus, c'est la vérité. Parmi les humains, il n'a jamais existé personne de plus grand que Jean le Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. »
À ce stade du récit, on pourrait aussi penser que Jean fait le mystérieux. Vous savez, un peu comme tous ces gens qui ne veulent pas répondre aux questions qu'on leur pose parce qu'ils savent qu'en évitant de répondre, ils seront plus intéressants que s'ils répondent. Leur vie réelle est moins intéressante que leur mystère. Mais Jean n'est pas de cela, puisqu'il va finir par répondre à la question. Et quelle réponse ?
Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez un chemin bien droit pour le Seigneur, comme l'a dit le prophète Ésaïe.
Je ne sais pas ce que disent les dictionnaires sur Jean le Baptiste, mais la bonne définition de Jean-Baptiste nous est donnée par Jean lui-même. Jean est une voix qui crie dans le désert. C'est étonnant et c'est impressionnant, juste une voix, et dans le désert en plus. Si nous avions dû mettre en place un plan cette année pour toucher le cœur des gens et pour les amener à changer de comportement avant Noël, qu'aurions-nous fait? Aurions-nous eu l'idée de crier dans le désert? Nous aurions certainement essayé de parler avec douceur dans les villes. Nous serions allés là où sont les gens pour tenter de les amener à Dieu, en leur rappelant peut-être combien Dieu est bon, combien il est amour. N'est-ce pas vrai? Pourquoi brusquer les gens et les braquer? L'époque est si difficile. Ce n'est pas le choix de Jean le Baptiste. Jean est cette voix qui crie dans le désert. Elle crie là où il n'y a encore personne. Elle crie... Et elle ne se contente même pas de parler. Elle appelle à la repentance et elle montre clairement aux humains leurs fautes et leurs péchés. Je ne suis évidemment pas en train de vous dire que nous devons tous désormais faire comme Jean le Baptiste et nous dépêcher d'aller crier dans les campagnes désertes de notre pays, voire d'aller crier dans les déserts de notre planète. Et d'ailleurs, si nous le faisions, que serions-nous en train de crier? Il ne suffit pas de crier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui crient. Ils crient contre le gouvernement parce qu'ils estiment qu'il ne fait pas ce qu'il faut pour lutter contre l'épidémie. Ils crient contre les religions parce qu'ils estiment que la violence ne vient que de ce côté-là et qu'il faudrait que ces convictions religieuses restent dans le domaine du privé pour qu'on ne soit plus embêté. Ils crient pour que les humains retrouvent un peu de bon sens et s'occupent un peu mieux de leur planète. Mais il ne suffit pas de crier. Si nous avons déjà crié sur nos enfants, nous avons pu constater que cela ne suffisait pas. Pourquoi crions-nous et que crions-nous? Jean le Baptiste est cette voix qui crie dans le désert, deux points, ouvrez les guillemets, préparez un chemin bien droit pour le Seigneur. Il ne s'agit donc pas seulement de crier, mais de crier pour que les gens préparent le chemin du Seigneur. Autrement dit, la venue de Jésus, autrement dit, Noël. La mission de Jean-Baptiste est simple. Il doit préparer les cœurs à la venue du Sauveur, Jésus le Christ. À cette époque, il s'agissait de préparer les cœurs à la venue physique de Jésus. Dieu avait prévu de descendre sur terre. Il l'avait annoncé et le moment était venu. Le moment le plus important de l'histoire de l'humanité. Comme a pu le dire l'astronaute James Irving en 1971, en pleine conquête spatiale. Le moment le plus important pour l'histoire de l'humanité, ce n'est pas le jour où l'homme a marché sur la Lune, mais le jour où Dieu a marché sur la terre. Jean le Baptiste est en train de vivre ce temps unique de l'histoire de l'humanité, et il essaye de préparer les cœurs à la venue du Sauveur. Il essaye d'accomplir sa mission avec sérieux, enthousiasme et humilité. Jean le Baptiste appelle à la repentance et j'espère que son appel arrivera jusqu'à nous. Comment nous préparer sinon à vivre un beau Noël 2020 si nous n'entendons pas cette parole ? Notamment tous ceux qui ne connaissent pas bien, ou pas du tout, ce Jésus qui devrait être fêté dans quelques jours. Jean le connaissait. Lorsqu'il voit approcher son cousin, il déclare « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit « Un homme vient après moi, mais il est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. » Jésus est bien le cousin de Jean le Baptiste, mais pour Jean, il est d'abord l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est aussi, comme il le dira ensuite, le Fils de Dieu, celui qui existait avant lui. Quand on sait que Jean-Baptiste est né 6 mois avant Jésus, on comprend qu'il affirme quelque chose de grand en disant que Jésus existait avant lui. Jésus existait de toute éternité. Jésus était là au moment de la création du monde. Jésus ne sera pas enfermé dans la tombe. Voilà celui que Jean-Baptiste annonce. Voilà celui que nous devrions fêter à Noël. Que savons-nous personnellement de Jésus ? Que savent nos contemporains ? Que nous disent nos collègues de travail ou que nous disent nos proches lorsque nous affirmons croire en Jésus ? Si Jésus était seulement un homme exceptionnel, admiré par des hommes exceptionnels comme Gandhi, Victor Hugo ou Brassens, que peut-il changer à nos vies et à notre monde ? Selon Jean le Baptiste, Jésus était plus que cela. Jésus était l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Même si vous parlez à quelqu'un qui n'a aucune culture biblique et qui peut avoir un peu de mal à comprendre que Jésus soit comparé à un agneau, cette personne sera certainement capable de comprendre que cette affirmation touche à quelque chose qui intéresse tous les humains, le péché. Nous avons tous envie d'être délivrés de notre tendance à faire et à penser le mal. Nous avons tous envie d'être délivrés de nos culpabilités, les bonnes et les mauvaises, les fausses et les vraies. Nous avons tous envie d'éliminer le mal autour de nous et parfois même en nous. Jean le Baptiste a rempli sa mission avec humilité. Il a préparé les cœurs à la rencontre de Jésus. Et si nous faisions comme lui encore aujourd'hui ? Nous pouvons crier nous aussi dans le désert. Mais avant de crier, nous pouvons nous aussi aller pendant quelques jours dans le désert, dans le silence pour nous écouter et pour écouter Dieu. Vous vous souvenez peut-être de Blaise Pascal qui disait « Le problème de l'homme aujourd'hui, c'est de ne pas savoir rester seul dans sa chambre, dans le silence. » Nous pouvons d'abord nous repentir et décider de changer de vie avant de penser à changer celle des autres. Ensuite seulement, avec la même humilité que Jean, nous pourrons nous aussi préparer un chemin bien droit pour le Seigneur. Dieu a placé des personnes sur notre route certainement pour que nous puissions finalement croire en lui. Remercions-le pour tous ceux qui ont agi comme Jean le Baptiste pour nous, et n'oublions pas que nous sommes nous aussi appelés à faire de même. Et si Dieu n'a pas encore placé quelqu'un, peut-être que ces paroles que vous entendez aujourd'hui, eh bien, viennent de la part de Dieu pour vous faire réfléchir. Si de nombreux chrétiens osent crier dans le désert pour que les chemins du Seigneur soient bien préparés, alors nous allons avoir de belles repentances, de beaux baptêmes et des changements de vie. Si de nombreuses auditrices et de nombreux auditeurs se disent qu'ils passent peut-être à côté d'un message qui pourrait changer leur vie, et s'ils commencent à se poser des questions sur Jean le Baptiste et sur Jésus, alors Noël risque bien cette année d'être un peu différent pour eux et pour elles, plus joyeux, plus profond malgré l'épidémie et malgré le terrorisme. Et si nous profitions de cette période de l'Avent, si nous profitions de l'Avent, A-V-E-N-T, pour ne pas le regretter après. Si nous profitions de l'avant pour penser à après et réfléchir à la venue de Jésus sur terre, et si nous décidions de demander pardon au Dieu Créateur pour qu'il nous aide à accueillir son Fils dans nos vies, il y a un avant et un après Jésus. Ce changement se produit parfois en lisant un dictionnaire. D'autres fois, c'est en entendant quelqu'un crier dans le désert. Peu importe. L'important, c'est de réaliser que Dieu veut nous préparer à rencontrer Jésus pour qu'il devienne non pas seulement un exemple, mais un Seigneur, le Dieu qui vient comme un enfant pour nous sauver, Emmanuel, Dieu avec nous, pour que nous puissions trouver la paix.
Eh bien, merci, pasteur Pascal Gonzalez, pour ce partage biblique et cette invitation que vous venez de nous lancer ce matin. Avant de nous quitter, j'aimerais vous proposer d'écouter un enregistrement rare, une chanson de Sister Rosetta Tharpe en concert à Paris, à la salle Pleyel, en 1964, à l'occasion de la sortie d'une biographie aux éditions Ampelos dans la collection Résister. Un livre pour faire mieux connaître cette extraordinaire chanteuse et guitariste gospel à qui le rock'n'roll et ses principaux pionniers doivent tant. La vie de Rosetta est quasiment un roman. Fille d'ouvriers agricoles du sud des États-Unis, elle chante avec le groupe évangélique de sa mère et joue de la guitare dès l'âge de 4 ans. 30 ans plus tard, elle influencera Chuck Berry, Little Richard ou Elvis Presley. Jesus is everywhere, Jésus est partout, Sister Rosetta Tharpe.
Come on, Spain! Jesus is mine! Jesus is mine! Come on now! Everywhere that I go, everywhere that I be, I know He is mine. In the morning, He, I know He's mine. In the evening, He.
C'était le service protestant sur France Culture proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Anne-Laure Chanel et avec Laurie Vachon à la prise de son. Nous recevions ce matin le pasteur Pascal Gonzalez de l'Union nationale des églises protestantes réformées évangéliques de France. Un service protestant à écouter et podcaster sur le site de France Culture et sur l'application Radio France, également disponible en ligne sur protestantaupluriel.org où vous pouvez aussi télécharger le texte du jour. Notre adresse postale, service protestant 47 rue de Clichy 75 009 Paris, et celle pour le courriel, communication@fédérationprotestante.org. Ce sont maintenant les informations sur France Culture, suivies par l'émission Talmudique. Et pour ma part, je vous souhaite une très belle journée, en souhaitant que tout ce qui a été partagé dans cette émission pourra sans doute encore vous encourager un peu plus. Jesus.